Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Ce soir, je devrais plutôt vous parler de l'émission qui se fredonne. Dès que je vais vous donner le nom de notre invité, vous allez l'entendre chanter. Ça fait des années et des années qu'on a sa voix dans la tête, des années qu'elle met les autres en parole et en musique aussi. Elle a écrit une partie de la bande originale de nos vies, de nos souvenirs, mais la connaît-on vraiment ? Ce soir, Zazie est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Bonjour, terriens, terriennes, internautiens, internautiennes.
La révélation féminine de l'année 93 est plus connue sous le nom de Zazie.
I'm singing ready. Oh, 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 je suis nulle en Beyoncé. Restons Zazie.
Comment on fait de la lessive ?
Bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du savon noir un peu. Ouais. C'est l'essentiel à la fin. De l'eau, on fait bouillir, ça dure une minute. Plus de contenant, plus de plastique.
Il faut voir l'efficacité. Quand on sait que Zaz fait elle-même son shampoing.
Elle s'appelle Isabelle de Truchy de Varennes. Vous avez quelque chose contre le sang bleu, ça vous...
Non, mais je suis une bâtarde, en fait. Ah bon, parce que mon père est aristocrate, mais ma mère ne l'est pas. C'est bien de mettre un peu de sang rouge dans le sang bleu de temps en temps. Mmh. Et c'est vrai que Zazie était le nom que j'ai entendu depuis que j'ai deux dents dans la bouche.
Tiens, Zazie, regarde, le Panthéon.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?
C'est peut-être pas le Panthéon.
Ah non, et non, c'est pas le Panthéon.
On va rentrer inconnu ensemble.
Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir.
Au début, je la détestais. Et puis, en fait, on est devenu vraiment copains. Et puis, quand j'étais en train de composer cet album, un jour, je lui ai fait écouter les maquettes où j'en étais dans le processus de composition. Et c'est elle qui m'a demandé, elle m'a dit, t'as pas des fonds de tiroir, des trucs que t'as fait, que t'aimais pas, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs bien.
C'est Obispo qui m'appelle un soir d'août et qui me dit « Alors oui, tu fais quoi ?» Là, il était minuit et demi quand même. Hein. « Bah rien, je suis chez moi toute seule au mois d'août, la joie quoi. Alors, il faudrait que tu me fasses un texte pour demain en fait. » Je lui dis « Mais oui, bien sûr, mais pourquoi ?» Oh, ce serait pour Johnny Hallyday, tu vois, l'ouverture ou la fermeture du Stade de France. » Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football ?
J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur, bon, comme beaucoup. Bon.
Il n'y a pas de temps à perdre. Après tout, les garçons n'ont pas le monopole de la déclaration. Je porte aussi bien que lui l'alcool et le pantalon. Il n'y a pas de temps à perdre.
J'ai une certaine masculinité en moi, dont je me sers pour séduire les hommes, non pas les femmes. Donc je ne suis pas féministe en ça, que je pense qu'un camionneur ou un déménageur sera toujours bien plus efficace si c'est un homme au niveau d'une certaine masse musculaire, des choses qui me
paraissent logiques. Il n'y a pas de combat à mener.
Aucun combat.
La première fois que j'ai vu Florent Pagny, parce qu'il m'avait accueilli dans une de ses émissions, et puis moi j'étais absolument inconnue au bataillon, on s'est mis tous les deux debout. Et là, il m'a fait oh une girafe, il me dit oh un nain, et voilà. Bon, après, on est devenus très amis.
Zazie, pour moi, c'est la Gainsbourg d'aujourd'hui, je trouve, vraiment.
Et j'avais énormément de difficultés de faire un disque sans Serge, énormément de difficultés de me dire que, voilà.
Tu y as pensé, sérieusement?
Bien sûr.
D'arrêter.
Bien sûr. Et puis, avec cette chanson de Zazie, grâce à elle, quelque part, le non-dit était parfait.
Je ne dirai plus un mot de toi, mais ça va. Je ne dis pas que ça m'enchantera, mais ça va. Puisque tu nous laisseras, me laisse sans voix. Je ne dirai plus un mot de toi. C'est comme ça.
Bon,
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Zazie.
Bonsoir, vous avez bien travaillé, dites-moi.
Ça colle les poils, hein, ça, la Jane Birkin.
Ah ouais, avec sa voix, sa sensibilité, c'était magnifique.
Je vous ai vu beaucoup réagir pendant ce portrait.
Ben oui, c'est marrant parce qu'en fait, on passe pas notre temps à retracer les extraits de nous comme ça, donc c'est un exercice assez rigolo à écouter.
Quand je vous ai contacté pour vous inviter dans Hors Piste, vous m'avez immédiatement répondu « Ah oui, ok, d'autant que j'ai rien à vendre, j'ai aucune promo ». Vous vous rendez compte que vous réagissez à l'inverse de 99% des personnes qu'on contacte et des artistes, là?
Oui. Ouais. Mais en fait, moi j'aime bien la radio, déjà parce que la plupart du temps c'est en direct, donc si on dit une connerie, ben c'est de notre faute, mais si on n'en dit pas, eh ben ce sera pas de notre faute.
Là, si vous en dites, on la gardera.
Hein. Voilà. Mais j'aime bien la radio, j'aime bien ce que ça crée comme rêve, comme imagination. Alors là, je suis très contente parce que c'est pas filmé, là, votre
studio. Non, c'est de la vraie radio. C'est de la pure radio.
J'aime bien ça. Moi, j'ai imaginé la tête des gens, j'ai imaginé des films comme ça. Et je pense que c'est pour ça que de temps en temps, quand je peux le faire, j'aime bien faire ça juste en soi, sans avoir quelque chose à vendre.
Alors, sans vous connaître, Zazie, vous êtes quelqu'un qu'on imagine plus facilement faire du hors-piste que dans les clous. Cette impression, cette image que vous dégagez est-elle exacte? Est-ce que c'est vraiment vous, ça?
J'ai toujours été un petit peu doigt dans la prise. Comme personne, moins de risques depuis que j'ai fait un enfant, mais que ce soit au niveau sport, au niveau musical aussi, je n'aime pas m'ennuyer. Je pense qu'au fond de moi, je suis une grosse flemmarde à la base, et que pour qu'une grosse flemmarde se mette à travailler, il faut qu'elle soit passionnée. Et donc, ce qui me passionne et qui m'excite, c'est ce que j'ai pas fait avant. C'est plus le chemin que le résultat.
Et ça vous emmène un peu dans l'excès parfois ou pas? Ça a pu vous emmener dans l'excès?
Oh, j'ai quelques amis qui m'ont demandé d'arrêter de faire des sauts à l'élastique et d'aller juste voir au sommet de cette colline alors qu'il fait 47 degrés en Grèce et qu'il y a personne qui peut nous aider. Mais franchement, non, c'est plus de la découverte ou de l'aventure que vraiment une prise de risque où ma vie est en danger, quoi.
Vous avez peur de vous ennuyer?
Ah, j'aime pas ça du tout.
Ouais. Mais ça vous fait peur de vous ennuyer? L'idée de vous dire peut-être que...
Alors, je passe beaucoup de temps à m'ennuyer volontairement.
C'est quoi?
C'est les moments de dépression avant la pression de l'inspiration. On dit toujours, ah oui, il faut attendre l'inspiration. Moi, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, j'inspire le monde. Ouais. Et je peux passer des journées à rien faire sur un canapé en contemplation du plafond. Pour laisser venir des choses qui sont peut-être un peu refoulées, un peu inconscientes.
Mais c'est dépression au sens absence de pression, c'est pas dépression, je pleure, je suis triste, non.
Non, il y a une tristesse.
Il y a une tristesse quand même.
Mais je pense que c'est important la tristesse, parce que c'est là où on trouve le rebond. Mais sauf que quand on est artiste, on apprend, qu'on se rend bien compte, la première fois que ça nous arrive, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de haine envers moi-même? Tout va bien. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a une récurrence à chaque fin d'album et de tournée. Il y a cette petite dépression météorologique qu'il faut accepter.
Et après cette dépression météorologique, il y a le feu. On le sait pas toujours, mais Zazie, c'est donc aussi ça. La chanter. Hein.
Oh là là. Enfin, c'est quand même lui qui la chante le mieux. Hein. Cette voix qu'il a, c'est
Allumer le feu, évidemment, Johnny. Vous avez écrit plusieurs titres pour Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui vous a appris, Johnny?
Ce que c'est qu'un interprète. Ouais. Bizarrement, on peut croire que c'est juste une voix, et c'est vrai, quand ils chantent dans un studio, bah, tous les ingé-sons peuvent vous dire qu'ils sont un peu effrayés parce qu'il peut coller ce qu'on appelle les pastilles des micros, c'est-à-dire vous désinguer deux micros parce qu'il a chanté trop fort. Ouais. On a vraiment l'impression d'ouvrir la porte et de se retrouver à la pointe du rat avec un force 12 dehors. Mais au-delà de ce côté minéral et voilà physique, il y a un grand interprète. les mots sont, moi en tant qu'auteur, de temps en temps, je suis trop contente, j'ai fait des efforts, et puis ça rend rien du tout, parce que les gens pourraient chanter le bottin, c'est pareil. Lui, il y met du sens, il y met son sens. Alors évidemment, là, c'était un peu servi sur un plateau, mais normal, on me dit, ouverture du Stade de France, j'ai fait une chanson de gladiateur, quoi. Ouais. C'était très très drôle comme exercice, puisque jamais moi, je ne pourrais faire ça, ni chanter ça. Donc je me suis fait une méthode avec, pour moi, ce qui me sentait important, ce qui me semblait important pour les gens. Alors, moto, tatouage, bruit, feu, enfant, loup, lion. Et puis après, j'essaie de piocher là-dedans pour en faire un texte quand même cohérent.
Johnny Hallyday, c'est l'idole, il reste l'idole de millions et de millions de Français. Quel rapport vous avez aux idoles, vous? Qu'est-ce qui vous impressionne? Est-ce qu'il y en a?
Alors, les gens qui cherchent.
Ouais.
Le chanteur de Radiohead. Peter Gabriel à l'époque, en tout cas en termes de musique. Les gens qui cherchent, les gens qui n'exploitent pas le filon jusqu'à ce qu'il soit stérile.
Ouais.
Les gens qui bougent, qui osent vendre moins, qui osent se remettre
prendre
en question.
Risques.
Voilà, c'est. Je pense que être artiste, c'est se questionner. Si on arrête, on est mort.
Mmh. Vous êtes déjà allé demander un autographe à un artiste, vous, quand vous étiez plus
non.
jeune ou...
Ah non, j'ai pas compris au début pourquoi il voulait ça.
Pourquoi on vous en demandait à vous?
Oui. En fait, je viens pas du tout de cette culture-là. Ma mère fait de la musique classique,
ouais.
Donc il y a peut-être des autographes là-dedans. Mais enfin, je voyais alors Michel Corbeau, qui est un chef d'orchestre qui est d'ailleurs décédé il y a pas très longtemps, qui est extrêmement connu dans le monde de la musique classique. Mais je lui montais sur ses genoux. J'avais pas du tout ce rapport-là.
C'était pas votre code.
Non.
Ouais. Alors, outre Hallyday, vous avez écrit pour beaucoup d'autres artistes. On va en citer quelques-uns. Panique, Calogero, Obispo, Patricia Cass, Isabelle Boulay, Christophe Willem. Est-ce qu'il y a forcément de l'affect là-dedans quand on écrit pour les autres?
Il faut créer un lien, même s'il est platonique et littéraire. J'ai par exemple beaucoup aimé travailler avec Calo. J'aime toujours. D'ailleurs, on travaille de loin en loin. Parce que on avait décidé de pas se voir. Donc, il m'envoyait par coursier des petits DAT à l'époque, enfin voilà, des maquettes. Et je lui renvoyais des lettres avec le texte en physique. Ou alors je chantais dans son téléphone à 3h du matin, le pauvre. On a bien aimé cette espèce de correspondance, en fait, qui permet aussi une espèce de romance en soi pour rien, qui permet, oui, il y a de l'affect.
Oui. Il y a encore une place pour le rêve dans ce métier, cette façon de le faire, parce qu'on entend souvent parler de l'industrie du disque comme quelque chose de très désincarné, de très business et purement business. Non, il faut quand même aimer un peu pour pouvoir partager avec un autre artiste.
Alors moi, je ne peux pas être inspirée par quelqu'un qui m'inspire rien, c'est aussi simple que ça. Parfois, j'ai travaillé avec des gens de loin. Voilà, j'avais travaillé avec Hélène Ségara pour elle a pris un titre d'ailleurs, je crois, mais les autres ça matchait pas. J'étais
ouais.
même assez déçue. Et en même temps, il faut se mettre au service. C'est un exercice qui est aussi intéressant avec nos petites carrières un peu narcisso-yepèze. C'est intéressant là parce qu'on est sur le service de l'autre. On est sur un cadeau qu'on offre à l'autre et non pas à soi-même.
Ouais.
Johnny, je vais pas lui offrir une robe en crinoline, ça lui ira mal, quoi.
C'était pas l'effet n'était pas aurait pas été garanti.
Il y a un truc de gladiateur.
Il y a quelqu'un d'autre pour qui vous avez travaillé. On entendait dans le portrait de Jane Birkin parler de vous. Vous admiriez beaucoup Gainsbourg. Écrire sur Gainsbourg pour Jane Birkin.
C'était une tannée.
Une tannée.
Alors c'était très compliqué. Gainsbourg. Alors voilà, si j'avais dû faire un autographe à quelqu'un, ça aurait probablement été lui. C'est une espèce de référence comme ça, fantasmée, où j'avais un poster avec mes premiers synthés et où je le regardais en disant « Alors, petit gars, tu penses quoi ?» Enfin, vraiment cette espèce de dialogue qu'on fait avec des amis imaginaires, mais ayant existé.
Un dialogue à l'unilatéral.
Et complètement, ouais. Je ne l'ai jamais rencontré. Le jour où j'ai signé, Caroline Molko, qui m'a fait cette proposition de signature de contrat, m'a dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on va te faire une proposition. La mauvaise, c'est que Gainsbourg vient de mourir. » J'avais choisi cette maison de disques aussi par référence pour lui. Bref, Monsieur Laurie Chaume, qui s'occupait à l'époque de Jane Birkin,
ouais.
avait été briefé par Jane d'une manière très très particulière en disant « Je veux bien chanter, j'en ai besoin, mais surtout pas un mot sur Gainsbourg. » Va savoir qu'est-ce qui s'est passé, il a briefé tout le monde, sauf moi, il a oublié, c'était pas volontaire. Moi, pendant 3 mois, je me suis bien demandé ce que j'allais pouvoir faire après ce duo infernal. Et en fait, j'ai fini par faire la chanson là-dessus en disant, bah, qu'est-ce que tu veux que je dise après ce que tu m'as fait dire? Je pourrais pas dire un mot de ça, quoi. Et du coup, c'est passé. Et Jen m'a dit, je ne comprends pas, il t'avait pas briefé du tout, je ne voulais rien chanter sur lui. Et elle m'a laissé un message que j'avais gardé, mais là, malheureusement, dans le déménagement, je sais pas où il est, où elle était en larmes en me disant, je veux bien celle-là, je veux bien, oh, tout en, tu as un Kleenex, Charlotte? Enfin bon, c'était Jen, quoi.
On précise que c'est Zazie qui imite Jen Birkin, c'est pas la vraie Jen Birkin, parce que vous la tenez assez bien, quand même, hein. Dans vos admirations, il y a aussi Romain Gary. Pourquoi Romain Gary?
Je trouve que parfois dans les romanciers très intelligents, parce qu'il y a une vie, alors c'est un roman là aussi quelque part, hein, question aventure, exploration.
Il y a du niveau.
Il y a du level. Et en même temps, souvent beaucoup de philosophie dans ces gens qui ont beaucoup voyagé aussi, qui ont vu comment vivaient les autres, qui ont fait plusieurs métiers, des métiers à risque, des métiers sans risque, et puis sont je trouve que dans ce qu'il écrit, il y avait beaucoup de choses qui étaient très très visionnaires en fait, au niveau de la planète, au niveau des problèmes du début des ordinateurs, etc. Mmh. Il avait quand même un peu juste partout.
Vous avez dit cette phrase sur lui, il révèle une conscience parfaite du monde.
Oui, j'étais intelligente ce jour-là.
Ah, c'est bien. C'est quoi la conscience parfaite du monde? C'est ça, c'est le voir tel qu'il est, pas tel qu'on le.
L'impressionnisme. Je pense que ce qui est bien dans son travail, c'est qu'on n'est pas dans le politique, on est dans la, ça nous empêche pas d'avoir un avis ou dans le côté sociétal, mais on ressent le monde sans le juger.
Zazie, comme c'est le cas pour chaque invité de Hors-Piste, on vous a demandé de choisir un titre, un disque, une musique, une chanson, et vous avez choisi Chanter, c'est lancer des balles d'Alain Souchon.
Chanter, c'est lancer des balles en contact. Pour que quelqu'un les attrape et que ça bibappe loulap. Des ballons d'hélium pour faire monter les hommes au-dessus de la pluie dans le solarium. Chanter, c'est lancer des balles, casser des verrières et les filets sains à l'air. Regarde tomber les bouts de verre pour qu'elle trouve notre gage de musique et de langage, joli à défaut du visage. Chanter, c'est lancer des balles. Derrière une vitre, pour pas qu'une petite nous quitte, ou pour que la vie passe plus vite. Seul contre un mur, sur une scène contre nature, ou en se cachant la figure. Rapper morose pour changer les choses, et même en désespoir de cause, des blagues au téléphone pour faire rire les personnes et la mère de Jim Morrison.
Chanter, c'est lancer des balles, le choix de Zazie dans Hors-Piste, Alain Souchon. Chanter, c'est lancer des balles, des ballons qu'on tape pour que quelqu'un les attrape. Pour qui vous les lancez, vous, les balles qui semblent être autant de bouteilles à la mer, Zazie?
Je crois qu'on choisit pas. Quand on a décidé de faire de la chanson populaire, ou en tout cas que les journalistes ont décidé de nous appeler, de nous mettre dans le chanteuse pop, ou chanteuse ceci, ou alternatif, ou électro, ou machin... Ça me va, moi.
Vous êtes chanteuse quoi, vous?
Bah, je sais pas, ça dépend, des albums. De temps en temps, ils m'ont mis une fois dans le rock. Sinon, ils me mettent dans la chanson populaire. Sinon, de temps en temps, variété.
Vous mettez dans quelle catégorie, vous?
Aucune. Je fais des cornichons à la fraise. Mais je me mets dans la catégorie qui ne choisit pas son public.
Ouais.
J'aime cette idée de ne pas m'adresser à une communauté particulière.
Vous ne lui préparez pas ce qu'il a envie d'entendre ?
Voilà. C'est pour ça que cette chanson, je la trouve d'une exactitude de texte invraisemblable. Voilà, c'est juste des ballons qu'on tape pour que quelqu'un les attrape. Et je me fiche du profil de la personne qui les attrape.
Ça renvoie à une image un peu mélancolique de vous, ce choix-là. Vous l'êtes ou pas mélancolique ?
Je pense que je suis mélancolique, voire même peut-être un peu dépressive. Ouais. Mais comme pas mal de gens dépressifs au fond d'eux, c'est quelque chose qui n'est pas constant, mais qui fait partie de la vie et qui nous permet aussi d'avoir du rebond. Donc,
dépressive oui, joyeuse un peu, non ?
Oui, j'aime bien me plonger dans certains états, sans complaisance. En général, je suis seule, et c'est la nuit. J'aime bien écrire la nuit. Mais j'aime bien aussi, dans cet état, le sombre, c'est-à-dire la chose qu'on... Voilà, la caverne de Platon, quoi. La chose qu'on ne connaît pas encore de soi. Et je trouve ça très joyeux comme démarche, en fait. C'est aussi la démarche de la psychanalyse, parfois. Mais quand on fait un texte, quand on travaille... il est bon d'avoir aussi du tendre, d'aller dans la tendreté de la viande de soi, et puis d'aller creuser, et puis de regarder s'il n'y aura pas deux, trois trucs sympas.
Alors Alain Souchon, on l'a appelé, et quand on lui a dit qu'on vous recevait dans Hors-Piste, il a eu envie de vous poser une question.
Zazie, cher Zazie, c'est Alain Souchon, ton ami. Voilà, je voulais te poser une question qui me turlupine depuis des années.
Ça sent que ça va être une bêtise.
Quand tu avais 15-16 ans, est-ce que tu rêves, dans un coin de ta tête, tu disais, l'enfant, j'aimerais bien être chanteuse comme Madonna. Ou bien, j'aimerais être écrivain de chansons dans ma chambre. Ou bien mannequin. Alors, raconte-nous laquelle. Je t'embrasse bien fort. Et merci de bien aimer ma chanson.
J'avais très peur parce que il peut être très très blagueur. C'est Alain Souchon. Pour répondre à sa question, je n'avais aucune projection de ça. Je pense que... quand j'étais très jeune, je voulais être clown.
Oui.
Bon, c'est pas loin. De temps en temps, c'est quand même un vaste cirque, cette affaire. Le showbiz, tout ça. Je crois que quand même, j'avais inconsciemment envie de faire mon intéressante. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir... se faire écouter ou voir ou entendre de milliers de personnes, c'est que sûrement il a mal dit ou il y a eu des petites failles dans le cercle quoi des proches. Que ce soit des grands timides, il y a beaucoup de chanteurs qui sont très timides. Mmh. Pourquoi se faire une violence pareille ? Je pense que c'est une manière d'exorciser des mal dits ou des mal aimés et qui fait qu'on pose la question un peu au pluriel, je dirais.
Vous êtes la seule mannequin, vous avez été mannequin, à vous revendiquer garçon manqué. Pourquoi ? Vous êtes un mec dans votre tête ou pas ?
Pas du tout.
Ouais.
Non. je me sers de ce que j'ai,
ouais,
comme de ce que je n'ai pas. Jane Birkin, par exemple, a été assez égériesque pour moi, puisque c'était à peu près la seule femme qui avait des tout petits seins et que mes copains trouvaient hyper sexy. Je me suis dit, c'est donc possible. Il y a aussi la société qui renvoie une image assez formatée des femmes, assez avec des obsolescences dès qu'on a passé 50 ans. Enfin, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut un peu combattre.
Vous avez une jolie phrase, vous dites, je me suis épuisée à vouloir être un mec, mais je ne suis pas déménageur, j'ai toujours une jupe dans ma tête.
Oui, oui, je crois que j'ai une jupe, mais une jupe même celle de ma grand-mère, vous voyez, celle en dentelle. Je pense que j'ai ce côté-là très vieille France. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être sûrement d'une éducation.
C'est pas la jupe pour pécho, celle-là.
C'est pas la jupe courte, non.
Ouais.
Non, c'est une jupe d'Amazon. Ouais. Voilà.
Amazon, tiens, c'est un mot. Il paraît que vous voulez le mettre dans, vous essayez de le placer dans tous vos albums au moins une fois.
Alors c'est pas tout à fait ça.
C'est que quoi, cette histoire
j'avais cette idée. De temps en temps, on a des idées comme ça ou des mots qu'on trouve très magiques. Sans en connaître vraiment le sens. Les Amazones, ça a été quelque chose qui est légendaire, mais ça a aussi existé. Ça existait aux États-Unis, ça existait chez les Indiens. c'était des femmes qui quand même étaient quand même un peu violentes, des féministes peut-être avant l'heure, mais enfin façon violence, hein, c'est-à-dire qu'elles prenaient des mecs, elles les prenaient comme reproducteurs, puis après merci salut pour pouvoir exercer leur arc et bander leur arc, elles se coupaient un sein. Enfin, c'est quand même un truc un peu Valkyrie, enfin un peu violent. Mais j'aimais bien cette idée du cheval, enfin de l'imaginaire que ça me dégageait. Sauf que j'ai mis un temps infini à faire la chanson qui correspondait à ce que je voulais. Ça pouvait aller tellement partout, très très, très positif un jour quand j'allais bien et que je voulais bien chevaucher ce cheval accru. D'autres moments où je me disais non, c'est quand même terrible cette violence qu'il y a en nous.
Enfin, bon, donc en gros, vous avez essayé de le placer jusqu'au moment où vous avez réussi, c'est ça ?
Voilà. D'accord. J'ai fait une chanson qui s'appelle Amazon, mais voilà.
Alors évidemment, aujourd'hui, quand on prononce le nom de Zazie, on entend ça. Et à propos de The Voice, et après Alain Souchon, il y a quelqu'un d'autre qui a une question à vous poser, un garçon d'origine grecque.
Ma chère Zazie, c'est Nikos. Je suis quelques heures à Athènes et je regarde la mer et je pense à toi, toi qui aimes le voyage et les poètes. Et une question me taraude. Je me demande si tu préfères gagner au sein de notre émission ou si tu préfères tout simplement transmettre. Si vous avez la bonne réponse, envoyez un ou deux tout de suite par SMS au 72-500 ou par téléphone au 39-80. Vous pouvez également voter par pigeon voyageur sans omettre, évidemment, de mettre la réponse sur le petit bout de papier. Bonne journée, Zazie. Je t'embrasse.
Alors
Transmettre. Alors, attention, j'aime bien jouer.
Ouais.
Je suis bonne joueuse. Ça m'est
bonne
égal.
Perdante ou pas ?
Oui.
Ah.
Ça m'est égal de perdre, puisque c'est pas moi qui perds, comme c'est pas moi qui gagne. Mais on sait, d'ailleurs, on en a la preuve, que tout un tas de talents ou d'artistes, de jeunes artistes qui sont passés par là, n'ont pas gagné et ont gagné à faire cette émission, quoi qu'il en soit.
Mais alors, ça veut dire quoi, transmettre ?
Alors, on n'a pas beaucoup. Il y a pratiquement aucune, à part peut-être ces moments-là où on peut parler un peu de nos métiers, de nos drôles de métiers. Il n'y a pas beaucoup d'émissions. Il y a beaucoup d'émissions qui parlent de musique, on voit des chanteurs, ah c'est chouette, avec le côté un peu paillette, strass, caviar, champagne. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui rentrent dans le fond du travail,
dans le processus savoir, de fabrication. Voilà,
voir quelqu'un qui chante bien, mais qui chante un truc où il sait pas pourquoi il le chante, donc du coup ça ne va pas toucher les gens. On en voit beaucoup, ce que j'appelle les choristes, sans du tout dénigrer ce métier, mais des gens qui ont une technique folle et qui ne savent pas se relier à leur cœur quand ils la chantent.
Et c'est là que vous vous sentez utile, c'est là qu'est votre rôle en fait.
C'est là qu'est notre rôle, c'est dans les 5% qu'on peut changer ou aider les gens à avoir quelques petits trucs pour pas être mort de trouille et avoir la voix qui tremble et perdre leurs moyens, se servir du trac comme d'une énergie. C'est des petites choses, donc c'est une transmission et c'est aussi montrer de l'autre côté de la télévision, c'est-à-dire c'est une émission qui marche très très bien quand même, aux téléspectateurs que derrière un chanteur, il y a tout l'organigramme qui est assez bien montré, les ingénieurs du son, les caméras, les répètes, les coachs techniques. Nous, on est des coachs bienveillants, mais des coachs de télé.
Il y a beaucoup de travail, en fait.
Il y a du travail. Mmh.
La transmission, Zazie, c'est aussi le rapport au temps. Quel est votre rapport au temps qui passe, vous ?
Alors, il y a des moments, ça m'agace. j'avoue.
Et du coup, vous l'arrêtez ? Comment vous faites ?
Non, malheureusement, je ne peux pas faire ça. Non, j'essaie de le rattraper, justement. Ouais. Alors, on a des métiers qui sont quand même beaucoup, on nous a beaucoup mis, on nous oblige d'ailleurs, moi ça n'a pas forcément une joie, de mettre le curseur sur l'image. On est des filles, donc une fille qui prend de l'âge, en général, est moins sexy qu'un homme qui prend de l'âge.
C'est plus
notre
compliqué
société.
Aussi dans la chanson, c'est pareil ?
Je confirme.
Ouais.
Dans tous les métiers publics, en fait, je pense que c'est plus compliqué pour ça, en tout cas pour une femme. Donc le tout, c'est de continuer à trouver, je dirais, aussi, c'est du travail, non pas contre la société, puisque ça sert à rien de bloquer les gens, et de voir aussi que nous-mêmes, on se bloque tout ce qui s'est passé, même en MeToo, etc. J'ai trouvé ça aussi très intéressant de voir, moi, comment je me questionnais par rapport à ça. Est-ce que quand un type un peu éméché me dit « Ah, t'es bonne », je trouve ça scandaleux ? Non. Donc c'est intéressant de remettre cette société aussi en, en question. Et moi, c'était un peu de me dire, bon, alors oui, j'arrête cette jupe très courte. Ouais. Non pas parce que mes jambes sont moches, mais parce que j'ai plus envie. Mais je pense que dans la liberté qu'on peut acquérir, il y a aussi du sensuel. C'est juste une sensualité différente. Ouais. Quoi. Mais c'est du travail.
C'est du travail. Et en même temps, vous faites partie de ces artistes qui sont présents dans nos quotidiens. Vous n'êtes pas très nombreux en France. Et qui, du coup, nous font un peu oublier qu'on vieillit.
Oh bah. Non, il me voit vieillir, hein. Je vous confirme.
Oui, mais par votre présence, par le fil musical que vous arrivez à tisser.
En tout cas, je dirais peut-être plus justement qu'ils sont pas les seuls à vieillir.
Ouais.
Parce que nous aussi, on vieillit. Quand on a, alors là, ça j'adore, c'est la radio, mais déjà, je peux vous dire qu'il y a des moments où je ne reconnaissais pas ma voix, parce que c'est ma voix de quand j'avais 30 ans. Ouais. Et elle a changé. Bons et loyaux services à la Saïta. Je pense qu'il y a vraiment, c'est pas rassurant, forcément, de vieillir, mais vieillir ensemble, ça l'est peut-être un peu plus.
Donc ça vous affole pas?
Non.
Vieillir, mourir un jour?
Alors ça, pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça.
Bon, attendez un peu quand même. Hein.
Non, mais je suis en pleine forme et j'ai aucune intention de casser ma pipe sur un malentendu. Mais je pense que j'ai eu la chance, quand j'avais 10-11 ans, de vivre une expérience un peu particulière, une grosse opération pour, voilà. Et où j'ai vécu cette espèce de dilatation de moi-même, où je me suis vue un petit peu pendant quelques secondes.
Le tunnel, la lumière, tout ça ?
Non, je me suis vue au-dessus.
Ouais.
J'ai donc vu que mon chirurgien était chauve, parce que j'avais 11 ans, il était très grand, je ne le voyais pas. Et tout un tas de choses comme ça, où quand je suis revenue après un petit coma, j'en ai parlé. Et ils ont tous halluciné, parce que j'avais le nom de ma maladie, tout ça, etc. J'avais vécu l'opération, mais ailleurs. Et c'était très rassurant.
Ça vous a désangoissé, en fait.
Oui, parce que c'était un inconnu, mais chaleureux. C'était pas grave, en fait, quoi. Je pense que ce qui est pénible dans la mort, c'est plutôt pour les gens qui restent. C'est pas forcément pour la personne qui part.
Je voudrais qu'on écoute quelques notes de votre chanson Speed.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois, des mois.
Si vieux, non, t'es flambant vieux.
Oui.
Elle est magique, cette phrase. On aime mieux avec un cœur flambant vieux qu'avec un cœur flambant neuf, Zazie ?
Oh, je crois, oui.
Ouais.
On aime peut-être moins souvent, mais on aime mieux. On se connaît mieux. Et je pense que aimer, c'est avant tout se connaître soi pour pouvoir mieux aimer l'autre. On a le sens de l'autre quand on sait qui on est.
Le problème avec cette chanson, c'est qu'elle est longue et qu'on a envie de l'écouter en entier et qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, Zazie.
Vous voulez que je vous avoue pourquoi j'ai fait cette chanson au début? Le premier texte,
ouais.
C'était, ça parlait de libido.
Ah.
L'ours mal léché était plutôt...
Ah d'accord,
oui,
c'est le gorille de Brassens en fait.
Exactement. Puis après, j'ai évidemment élargi le débat à toute la libido, à savoir le cœur de roman. Quoi.
Alors cette chanson, elle va vite? Et vous, Zazie, vous avez choisi de prendre votre temps dans la vie, de vous poser pour éviter le côté un jour un concert, un hôtel, un bus, un jour un concert, un hôtel, un bus et rebelote. Et en 2003, vous avez joué au Bataclan. Ça s'appelait Zazie Squat le Bataclan. Et vous avez tenu à y rejouer quelques mois seulement après les attentats de 2015. Pourquoi ?
Jules Frutos, qui occupait de cette salle, ne savait pas quoi en faire. Hollande. À l'époque, ne savait pas non plus quoi en faire. Mmh. Il y avait des questions. Est-ce qu'on va en faire un mausolée, un musée de cette barbarie? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on arrête la musique et qu'on fait autre chose dedans? C'était très compliqué. Mais ces gens sont venus voir un concert. Ils sont pas venus mourir, hein, pour mourir. Donc, ça me semblait important, vu l'état dans lequel était Jules Frutos, avec cette salle, avec ses travaux, avec ce qui s'est passé, de symboliquement, sans savoir vraiment le devenir de la salle, être là pour les raisons pour lesquelles les gens étaient venus, pour que si dans toute cette lourdeur, si ça pouvait aider un peu à l'envol de leurs âmes.
Les terroristes ne gagnent pas, c'est ça, c'est renouer le fil.
C'est ça, c'est leur dire qu'on continuera. C'est ce très très beau livre, très beau titre. Vous n'aurez pas ma haine. Donc c'était célébrer les raisons pour lesquelles les gens étaient venus ce soir-là. C'était très compliqué. Hein. Moi, je les ai vécus pas de plein fouet, mais je suis passée en scooter avec ma fille devant une des terrasses, donc ma fille a mis un temps fou à s'en remettre. Moi aussi, on était traumatisés, les gens qui saignent, une scène de guerre, on n'avait pas l'habitude. Mais c'est important, parce qu'en même temps, les gens, je voyais qu'ils étaient dans le même état, le public a été, mais nous a portés. On s'est porté mutuellement, on n'en a pas fait 3 tonnes en parlant de ça, juste à la fin évidemment un hommage, mais oui, c'était important, il y avait un côté gaulois, il y avait un côté même pas mal, quoi,
il y a
même
un côté
pas mort.
Résistant là-dedans, acte de résistance.
Oui, je pense que c'est là où on s'est aperçu aussi que la musique, moi c'est ma... La musique me désarme. Écouter de la musique, ça me désarme, mais au sens, dans tous les sens du terme. Si ça pouvait nous désarmer, on dit qu'elle adoucit les mœurs. Ouais. Je sais pas si elle adoucit les morts, mais en tout cas, c'est une manière de faire s'envoler un peu toute cette lourdeur, ou en tout cas de pouvoir aussi se plonger dans cette émotion. Moi, je vois de temps en temps des gens qui sur Speed sont en larmes au premier rang. Alors c'est une chanson qui est globalement très joyeuse, mais ça leur permet...
Non, c'est pas vrai. C'est une chanson que chacun reçoit comme il peut et comme il veut, en fait.
Exactement. Ouais. C'est juste tous les moments où on est arrêté dans sa vie, et aussi quelqu'un met des mots dessus, ça pense un tout petit peu les plaies. En tout cas, c'est un vecteur d'émotion pour pouvoir exprimer les siennes, quoi.
Il y a des années, Véronique Sanson a écrit une chanson qui s'appelle « Allah ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Elle a été menacée très sérieusement. Elle n'a jamais pu la rechanter, cette chanson. Est-ce que vous mettez des freins, vous ?
Non. Non, alors c'est marrant que vous me disiez ça, parce que j'étais en train de travailler sur un texte et j'ai une phrase qui dit « Jésus à la croix, tu en moi ». Bon, je suis pas sûre de la mettre, finalement.
Jésus à la croix, pardon ?
Jésus à la croix, tu en moi. Ah. Enfin bon, c'est un truc sur la naïveté. C'est une chanson sur la naïveté. Mais je sais pas si je vais la mettre. Pas par... peur, mais pour pas blesser les gens. Je pense qu'il faut être dans ces cas-là très très exact dans le propos. Là, c'est complètement ridicule de s'être fait interdire cette chanson, parce que c'était bien le contraire de ce que ça disait. C'est une chanson qui était vraiment hyper tendre et de variété populaire.
Et c'était des années et des années avant les attentats qu'on a connus. Hein.
Oui, moi je le vois avec les réseaux, en tout cas. On a eu l'exemple de Menel, par exemple, dans The Voice,
une candidate qui était voilée,
qui était charmante, bon, qui avait sorti des bêtises, vraiment des grosses bêtises sur les réseaux, et qui s'est fait lyncher médiatiquement, a été obligée de sortir de The Voice, de vivre ailleurs qu'en France. Enfin, ça a des proportions qui sont hors normes. Évidemment qu'il faut lutter. Après, je pense que nous, on est engagés, et on doit s'engager dans nos vies de citoyens, et que ça passe aussi par non pas des messages. J'ai pas l'impression de prêcher moi quiconque, mais en tout cas ce que je pense, quoi. Voilà, j'essaye de penser à ce que je dis, mais je dis ce que je pense.
C'est vrai que vous n'avez jamais eu peur de vous engager sur plein de sujets différents. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Zazie ?
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Vous vous souvenez de ça ? Sommet de la Terre, en 2002 à Johannesburg. L'écologie, la défense de la planète, c'est votre combat du quotidien. Jacques Chirac, lui, en parle à ce moment-là, il y a 20 ans, donc quasiment. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on ne comprend pas qu'il y a un problème ? Pourquoi tout le monde s'en fout ?
Parce qu'il y a un gros malentendu pour moi, c'est que l'écologie n'est pas un parti politique. Ouais. Et que, malheureusement... on a eu trop tendance à l'associer dans un premier temps aux hippies gentils qui voulaient tous s'habiller en robe de bure et revenir à la bougie. Mmh. Donc c'était pas très sexy comme proposition de vie. On avait l'impression que c'était revenir en arrière sur une évolution. Mais c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est du bon sens, l'écologie. C'est pas un parti politique. Mmh. Là, on voit bien. Hein. Enfin, c'est la galère. Ils arrivent à avoir un peu de trucs parce que les gens, oui, sont convaincus de ça, mais elles devraient être dans une manière de vivre, quoi. Je pense que c'est...
Mais vous, ça vous prend au bit, ça vous prend au trip, cette question d'environnement. Là, vous parliez de votre fille tout à l'heure, qui a une vingtaine d'années. Vous vous dites là, on fonce dans le mur. Vous dites, oh, c'est pas si grave, ça va s'arranger, on verra bien. Ils se débrouilleront.
Non, alors vraiment pas. Je suis pas non plus alarmiste comme peuvent l'être les scientifiques qui eux sont désespérés parce que pour de vrai, ils voient bien qu'il y a un moment donné où peut-être ça va devenir irréversible, où on ne pourra pas. Agir, voilà. Je pense qu'on a toujours cette version de l'homme super-pouvoir, vivant plus, juste après Dieu ou avant Dieu, je ne sais pas, selon qu'on croit à ça ou pas. Moi, je pense que tous les êtres vivants sont utiles et que nous, sans notre planète, on n'en a pas de remplacement. On est, comme dirait Jean-Louis Hubert, locataire. On se doit, juste si on veut continuer narcissiquement à vivre, de faire gaffe à ça. Alors, l'homme, particulièrement la France, est très, très, très bon pour la lutte contre. Oui. Alors, pour les manifs, on est les champions de la Terre. On est contre tout, et c'est bien de garder l'esprit critique. C'est bien de dire non à des choses plutôt que de gober n'importe quoi.
Mais il faut apprendre
pour
à dire oui aussi.
Pour ce truc-là, il faut apprendre à dire oui. Et surtout, apprendre à regarder ces problèmes d'écologie, d'environnement, avec quelque chose de réjouissant.
Du coup, Greta Thunberg, vous l'envoyez ranger sa chambre là, qui nous engueule à chaque fois qu'elle prend la parole, ou alors, lui donner le micro sur scène.
Greta Thunberg, elle est à Asperger. Ça veut dire déjà que c'est un profil d'une jeune femme particulier. Mmh. C'est très bien qu'elle existe parce qu'elle a fédéré des plus jeunes générations, pas qu'elle d'ailleurs. Après, elle a été aussi, à mon avis, pas mal instrumentalisée par tout un tas de gens, qui fait que on en a fait une petite Jésus qu'elle assume, mais du mieux qu'elle peut, mais c'est très compliqué. Oui, c'est bien parce que c'est des paroles de gens naïfs, innocents, et qui disent une certaine vérité, leur vérité sur l'environnement. Après, je comprends aussi qu'il faille légiférer. Mais je pense aussi qu'on a fait trop de notre société un espèce de président qui était Dieu ou papa, au mieux, une figure paternelle, et dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Alors que cette espèce de masse que sont les gens ont aussi un pouvoir très horizontal. En fait, c'est pas juste une croyance. On l'a vu. L'écologie, les gens, les bouteilles d'eau, toutes ces choses-là.
Ouais,
mais c'est gourde des freaks en plus de mon collectif avec les chacaponk et d'autres artistes. Mais
ça, pour dire un mot, c'est la théorie du colibri. Chacun fait des petits gestes, voilà, et puis finalement, on arrive à éteindre l'incendie. C'est pour ça, on entendait dans le portrait que vous faites votre lessive vous-même, par exemple.
Oui, alors il faut faire attention au greenwashing, mais où là tout le monde met bio, certifié bio, etc. Machin. Mais on voit bien déjà que dans les supermarchés, vous avez une offre de choix qui s'est quand même vachement diversifiée. Avant, ça coûtait une blinde et c'était un truc. Maintenant, on a quand même beaucoup plus de place dans le rayon.
Donc vous êtes un peu optimiste quand même, un peu positif sur ce sujet-là.
Je pense qu'en tout cas, il faut arrêter de penser que c'est ça, qu'il faut juste en parler et qu'on peut faire des choses, agir, changer de fournisseur électrique, ça coûte rien du tout. Et ça dure 5 minutes pour, en un clic, c'est fait.
Vous dites le président, c'est papa, ça pourrait être maman. Vous pourriez vous engager dans la vie politique, vous, ou pas?
Pas du tout.
Non.
Non, la vie citoyenne. À mon avis, les meilleures politiques du monde, c'est les maires, quand ils font bien leur boulot. C'est les problèmes de poubelles, d'agression, de voisinage, de faire marcher. Politique, c'est ça, l'étymologie du terme. Mmh. C'est police, ça vient de police. C'est organisation des gens entre eux. Ça en rien la gauche, la droite, la virtualité qu'on nous propose maintenant.
Vous votez ou pas?
Oh oui. Ouais. Depuis quelque chose, on entendait Chirac tout à l'heure qui m'a tétanisé, où je ne votais pas avant. Je m'en foutais.
En 2002, le deuxième tour.
Je votais même pas blanc. Je votais pas. J'avais pas ma carte d'électeur. J'étais contre ce système. Je trouvais que je m'y retrouvais pas. Ça m'a bien terrorisé de me retrouver avec Le Pen en deuxième tour.
Donc en 2002.
Et j'ai pris ma carte après.
Zazie, c'est l'heure de l'objet. On vous a demandé d'apporter un objet de votre choix. Mais je ne le vois. Ah, c'est ce tout petit truc là.
Oui,
qu'est-ce que c'est?
Je suis en scooter, donc je n'ai pas pris mon éléphant empaillé. J'ai pris une toute petite boîte à musique, puisque c'est de la radio,
petite,
je suis obligée d'expliquer. Elle est toute petite, elle fait 2
cm
sur 4. Mais, alors, je vais essayer de tourner le micro. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut s'entendre comme objet?
On a le micro qui grince, mais...
Un objet qui s'entend. C'est la force aussi de la musique. C'est une toute petite boîte à musique et qui va faire ça? Vous me dites si vous reconnaissez l'air.
Oh oui, John Lennon.
Voilà.
Imagine.
Voilà.
Alors pourquoi?
Parce que la musique est partout. Elle n'a pas forcément besoin. Je remets mon micro correctement.
Micro. Voilà, on grince dans l'autre sens.
Elle n'a pas besoin de gros moyens. Elle n'a pas besoin de faire des gens des vedettes. La musique, c'est un cœur qui bat, c'est la vie, c'est du rythme. Dans tous mes voyages. Où je ne suis évidemment plus Zazie en lettres de feu. Je fais la queue au restaurant, je prends des gastro-entérites parfois, j'ai ça, j'ai de la musique partout. Vous allez au Brésil évidemment, mais vous allez en Inde, c'est pareil, et c'est un langage universel.
Langage universel, comme les mots aussi, même si c'est parfois plus compliqué de se comprendre d'une langue à l'autre. Je voudrais qu'on finisse avec les mots de Prévert, parce que vous adorez cette phrase de Jacques Prévert. Vous savez laquelle je vais vous citer ou pas?
Oui.
Allez-y.
Sur être heureux, c'est ça, non? C'est pas ça?
Quand on devient parent, on a le devoir
d'essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Mmh. Pourquoi?
Parce que le bonheur, je pense, la joie, en tout cas, est une détermination. C'est pas un état constant. On a des hauts, des bas, on en aura toujours. Mais c'est aussi se réveiller en étant déterminé à ça. Déterminé à injecter de la poésie dans nos vies, déterminé à continuer à, même à Paris, si le soleil est beau, ou le coucher de soleil est beau, on s'arrête 2 secondes, on le regarde. C'est un exercice en soi, mais quand on a commencé à faire ça, je vous assure, c'est vachement bien.
Donc vous êtes, par décret de Zazie, vous êtes une femme heureuse.
Oui. Et déterminé à l'être.
Et déterminé à l'être. Et ben nous aussi, on l'a été heureux de pouvoir faire une heure de hors-piste avec vous. Merci, merci, merci beaucoup,
merci
Zazie.
Merci Thomas, c'était sympa.
Merci également à Marie Mérier à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Pauline Laverre du Romanette. Je donne rendez-vous dimanche prochain à 18h. Vous êtes dans Hors-Piste, le dernier mot revient toujours à l'invité. Donc c'est à vous.
Et ben moi, j'adore faire du snowboard et j'aime bien quand c'est hors-piste.
Merci Zazie.